Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Sébastien Guyot.
Bienvenue sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Ravi de vous retrouver pour le débat des grandes voix avec nos quatre fantastiques à nous. Le PSG peut rêver. Charles Villeneuve, Catherine Ney, Michel Cotta, Gérard Carrérou. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Bonjour.
Au sommaire, il y a un an, on l'appelait Monsieur Déconfinement. Cette semaine, il est devenu Monsieur Reconfinement.
C'est une troisième voie que nous retenons, une voie qui doit permettre de freiner sans enfermer.
Freiner sans enfermer, dit Jean Castex. Le mot reconfinement semble tabou. Emmanuel Macron a-t-il perdu son pari? Nous verrons avec vous quelles sont les conséquences politiques, économiques, psychologiques de ce confinement, chapitre 3. Et puis nous parlerons bien sûr du dernier épisode en date de ce chapitre, le fiasco AstraZeneca. Les grandes voix, j'ai également envie de vous entendre sur la polémique de la semaine. Polémique qui a commencé sur Europe 1, mercredi, avec cet échange tendu entre la présidente de l'UNEF et Sonia Mabrouk.
Il y a des réunions où les blancs ne sont pas admis, c'est ça?
Mais ça a déjà été expliqué.
Est-ce que ça existe?
Mais je viens de vous expliquer que ça existe.
Selon le syndicat étudiant, ces réunions interdites aux blancs doivent permettre aux personnes victimes de racisme de pouvoir exprimer ce qu'elles subissent. C'est scandaleux, s'indigne Jean-Michel Blanquer, qui évoque des choses qui ressemblent au fascisme. Et puis, digne d'une cour d'école, cet échange à distance entre deux des hommes les plus puissants du monde.
Donc vous connaissez Vladimir Poutine, vous pensez que c'est un tueur? Je le pense.
Réponse ironique de Poutine, c'est celui qui dit qui est. Au-delà de cette joute verbale, vous nous direz les grandes voix ce qu'il faut comprendre de ce bras de fer entre les États-Unis et la Russie. Voilà pour le programme. Bienvenue à toutes et à tous. Installez-vous confortablement. Le débat des grandes voix, c'est parti. C'est une semaine folle que nous venons de vivre. Tout a été dit, tout est son contraire. Pas de confinement, confiné le week-end, confinement 7 jours sur 7. Petit flashback en moins de secondes, signé Capucine Patouillet.
Confiné, reconfiné, c'est un acte extrêmement fort. Chaque jour qui passe est un jour de gagné pour éviter ce confinement.
Il me semble, en tout cas, qu'effectivement, le moment est venu pour envisager des dispositions pour la région francilienne.
C'est une troisième voie que nous retenons, une voie qui doit permettre de freiner sans enfermer.
Michel Cotta, le 29 janvier dernier, Emmanuel Macron refusait de reconfiner la France contre l'avis de nombreux scientifiques. 29 janvier, 20 mars, ça fait 50 jours. 50 jours de perdu ou 50 jours de gagné?
Moi, je dirais quand même 50 jours ou moins 30 jours de gagné, mettons. C'est sur les 20 derniers jours que je suis interrogative. Ce que je voulais dire simplement, c'est a priori l'intervention de Castex, qu'on attendait quand même depuis plusieurs semaines, il avait parlé la veille, la semaine. Moi, j'ai rien compris. Voilà. Je n'ai rien compris. Alors, je veux bien que ce ne soit pas un confinement. Je veux bien qu'on l'appelle une troisième voie. Mais je n'en ai pas tiré, mais même, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que j'ai le droit de sortir du matin au soir sans être contrôlé, étant dans la rue? Ça veut dire, en fait, c'est un confinement dehors. Alors que depuis longtemps, on dit qu'on se confine dedans.
Oui, c'est la définition.
On se confine dedans, on n'est plus contagieux. Moi, je veux bien, mais en attendant, c'est vrai que je ne vois pas les effets immédiats, outre que je ne comprends pas les...
Les 15 des cases à cocher l'attestation.
Je ne comprends pas si tout le monde travaille, si les bus sont pleins. Alors, j'ai bien compris qu'on était obligé de rester dans les Hauts-de-France et qu'on pouvait se déplacer de 10 km. Bon. Mais en dehors de ça, je ne vois pas, alors je ne prétends pas que c'est facile, je ne prétends pas que je suis scientifique, mais je ne vois pas l'effet exact d'un truc de ce genre où, par définition, quand même, les gens, s'ils se retrouvent dehors, vont se regrouper, comme ils l'ont toujours fait. Et comment... qu'est-ce qu'on fait pour se déplacer entre des régions, entre des départements, quand on est à 10 km d'autre chose? Est-ce que c'est possible? En attendant, je crois que cette troisième voie est une voie, au fond, tellement facile qu'elle ne me paraît pas changer Complètement la donne.
Ce grand flou qu'évoque Michel Cotta,
le variant anglais, le variant anglais s'y retrouvera, je crains.
On sent même que l'exécutif a du mal avec le mot déconfinement. Il a été abordé une fois par Jean Castex et Emmanuel Macron lui-même dit ce n'est pas le terme approprié.
Mais pour répondre à votre question, Sébastien, moi je crois que sur le plan économique, le gouvernement a gagné 50 jours, qu'il a perdu sur le plan politique et par rapport à la psychologie collective. Je crois qu'on est entré dans une phase de perplexité et d'illisibilité de l'action gouvernementale. Beaucoup aujourd'hui doivent se dire, est-ce qu'on sait encore où on habite ? Et que ce qui a été décidé, c'est en quelque sorte, on nous a délivré, si vous voulez, une assignation départementale à résidence. C'est-à-dire que, et je crois que sur ce plan-là, c'est une bonne décision, on ne peut pas changer facilement de région ou de département. Ce qu'on aurait dû faire depuis le début, comme on aurait dû le faire aussi sur le plan des frontières.
C'est une bonne décision, vous pensez, vous aussi, Gérard Carreau, parce que la semaine...
Non, je n'ai pas dit que c'était une bonne décision.
J'entends bien. Non, mais c'est une décision qui a été mûrement réfléchie. Il y a eu beaucoup de changements dans la tête du président jusqu'au dernier moment. Est-ce que vous comprenez cette valse hésitation ?
Bonne, non, je ne comprends pas parce que ça a duré trop longtemps. Mais bonne ou mauvaise, ça, je vous répondrai dans, comme tout le monde, dans 4 semaines. On verra. Pour l'instant, moi, ce qui toujours me turlupine, c'est quand on n'ose pas dire les vrais mots.
C'est ça.
Quand on ne dit pas le mot, on ne prononce pas le mot, ça veut dire qu'on ne sait pas exactement ce qu'on fait. Et ça, c'est typiquement... Donc, c'est un vrai faux confinement. C'est un vrai confinement dans la mesure où on vous demande, ce qui est totalement stupide, une attestation. C'est le seul pays en Europe, la France, où on... J'ai vérifié, hein. Bien évidemment, et au-delà de la France, aux États-Unis, partout où il y a eu des confinements, quand il y en a eu, il n'y a pas eu d'attestation, l'auto-attestation. Chacun va prendre 5 minutes, 10 minutes tous les matins, ou alors faire son ordinateur, ou le faire à la main, peu importe. C'est donc, il y a un vrai confinement, puisqu'on vous demande un Ausweis, comme on disait en 1942 quand je suis né. C'est-à-dire une attestation qui prouve que vous avez le droit d'être dehors. Et puis en même temps, c'est ce que j'appelle le CPA. C'est-à-dire le confinement de plein air. C'est-à-dire qu'on incite les gens, et c'est très bien. Qu'est-ce qui va changer ? Moi, j'ai envie d'aller voir les bouquins. Eh bien, je continuerai à aller voir les bouquins dans le 5e, dans le 6e, dans tous les arrondissements où il y a des librairies. Je partirai le matin, je partirai l'après-midi. La seule contrainte, je rentrerai à 7 heures. Je suis d'accord avec Michel. Est-ce que ça va permettre de limiter toutes les interactions ? Dès lors que le Luxembourg, et j'en prends le pari, cet après-midi, s'il y a un rayon de soleil, et il semblerait, eh bien, le Luxembourg sera plein, bondé, et le Bois de Boulogne, et partout les endroits. Donc, je trouve que c'est une mesure, c'est du macronisme sanitaire, c'est-à-dire, c'est en même temps.
Catherine Ney, c'est vrai, aller chercher son bouquin comme Gérard Carreau, aller chez le disquaire, aller chez le coiffeur, chez le fleuriste, même non. Chez le concessionnaire
chez
automobile.
Le cordonnier, oui. Non, mais pendant le premier confinement, il y avait des aberrations. C'est-à-dire qu'on était vraiment interdit de sortir, se promener en forêt, même quand on était seul. Vous arrêtez parce que vous étiez seul en forêt. Les gendarmes vous arrêtaient parce que vous étiez seul sur la plage. Donc c'était un confinement absurde. Bon, alors, les choses ont été freinées, mais ça, c'est une chose que les Français ne peuvent plus accepter. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on est mis sous cloche, mais une cloche qui a des trous. Donc, on peut sortir, on peut se promener. Bon, avec des attestations, parce que je trouve ça insupportable. Mais on ne vous compte plus les heures. Avant, il fallait une attestation, vous aviez droit à une heure. Maintenant, c'est open jusqu'à 19h. Vous pouvez sortir autant que vous voulez. Donc, c'est un peu mieux. Mais ce que je trouve extraordinaire, puisque aujourd'hui, on voit bien une carte de France où on voit le Hauts-de-France, la région parisienne et la Normandie classées en rouge. Et puis en bas, il y a
les
Alpes-Maritimes. Si c'est cette région qui est dangereuse, il fallait dire tout de suite, vous ne partez pas, vous ne prenez pas le train. Vous ne partez pas dans vos maisons de campagne au-delà de 500 km parce que vous pouvez très bien, vous êtes peut-être porteur du virus. Vous risquez d'exporter le virus hors de ces régions.
Et on a vu 400 km de bouchons hier soir, 20% de réservation à la SNCF.
Avant les décisions.
Avant les décisions, on avait compris là, depuis 2 jours. Donc, vous voyez, c'est peut-être que cette précaution n'étant pas prise, peut-être qu'au contraire, et ceux qui vont voir arriver les Français de toutes les compatriotes de ces régions incriminées vont se dire quand même, c'est bizarre. Et puis évidemment, vous voyez, il y a aussi, maintenant, on est à la limite de l'acceptable. Le 1er mars, le président avait dit, écoutez, dans 4 à 6 semaines, on y voit clair, on voit la sortie du tunnel. Et bien là, maintenant, pour ces régions-là, à nouveau, on rentre dans un tunnel sans savoir si c'est vraiment 4 semaines. C'est 4 semaines sûres, mais est-ce que c'est 4 semaines et au-delà, ça s'arrête? Est-ce que ça va continuer? On n'en sait rien.
C'est 4 semaines au moins. On va parler de l'acceptabilité après ce premier tour de table, juste après cette première pause. Et on revient pour parler de ce que vous évoquiez, Catherine Ney, l'acceptabilité des Français et les conséquences psychologiques.
Europe 1, Sébastien Guyot.
Le débat des grandes voix avec Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. On parle bien sûr de ce pari perdu ou non d'Emmanuel Macron suite à ce nouveau confinement qui ne porte pas ce nom. On rappelle d'un mot avant de parler de l'acceptabilité avec vous, Michel Cotta, Charles Villeneuve, qu'il n'est pas possible, et ça c'est clair, d'aller d'une région à une autre.
Oui, c'est l'interdiction des déplacements interrégionaux. Mais Gérard Carrérou, durant la pause, me faisait une remarque que je pense judicieuse, je dirais judicieuse, intelligente si ça te fait plaisir, moi aussi d'ailleurs, simplement, on a pu s'apercevoir que en ce qui concerne les grandes villes, notamment Paris, hier, c'était, je dirais pas un exode, parce que c'est un mot qui rappelle de trop mauvais souvenirs, mais des milliers de Parisiens
et des embouteillages
et l'environnement de Paris qui ont quitté Paris et qui vont donc revenir pour travailler, vraisemblablement, lundi.
À moins qu'il y ait télétravail, Charles Villeneuve, puisque 4 jours sur 5 sont préconisés.
C'est ce que cette interdiction voulait éviter, c'est-à-dire d'aller dans des départements qui sont contaminants, ou en tout cas le variant anglais contamine à grande vitesse, et toujours la même course de vitesse entre l'accélération de la vaccination et le déplacement du virus. Bon, et qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas les empêcher de revenir, ils vont revenir après avoir été dans des départements contaminants. En tout cas, beaucoup dans le cercle parisien, de la région parisienne de l'Île-de-France, le sont. Et donc, si vous voulez, il y a une sorte de... Et le président de la République, d'ailleurs, dans la même semaine, a dû faire demi-tour deux fois. La première fois, il a arrêté AstraZeneca parce qu'il s'est aligné sur l'Allemagne en appliquant un principe excessif de précaution. Et une deuxième fois, se heurtant sur le mur des réanimateurs qui lui disaient « De toute façon, on en arrive à la chirurgie de guerre. » C'est-à-dire, on va choisir entre les patients. On va négliger un certain nombre de patients pour peut-être qui vont mourir, en tout cas, pour en soigner d'autres qui sont moins atteints. Et donc, cette absurdité-là, aujourd'hui, on la vit. On la vit d'autant plus que lundi, on va vivre encore un exode à l'envers.
À l'arrivée, la décision a été prise avec cette troisième voie. Est-ce que les Français, Michel Cotta, sont prêts à l'accepter? Il y a un sondage ce matin au Doxa dans le Figaro qui dit que 43% seulement des Français acceptent cette décision.
Je crois que ça ne veut pas dire grand-chose, parce que accepter, pas accepter, c'est assez ouvert au fond pour qu'ils s'aperçoivent assez rapidement que c'est moins contraignant même qu'on le dit. Parce que quoi? Parce que c'est un compromis. On voit très bien qu'après avoir dit si longtemps non, il ne faut pas confiner, le confinement est la dernière, c'est vraiment l'extrémité. Eh bien, on a fait un compromis entre quelque chose qui peut représenter un confrontement, parce que comme le dit Charles, on ne peut pas bouger à l'intérieur de l'Île-de-France et des Hauts-de-France, donc ça c'est un vrai confinement, et puis tout le reste qui n'en est pas. Donc de ce compromis, sans doute, les gens s'en rendront compte, le découvriront en faisant leur chemin, que ce n'est pas la même voie. Il reste que c'est annoncé, ça a été annoncé, une fois en tout cas par le Premier ministre, comme un confinement. Je trouve que c'est une erreur et qu'il fallait dire dès le début, nous avons fait un compromis entre un confinement qui aurait pu être plus strict et quelque chose qui ne l'est pas. Je trouve que ça a été, une fois de plus, asséné d'une manière inutile et fausse.
Gérard Carrérou.
Oui, c'est une décision qui est purement, vous me direz, tout est politique quand il s'agit d'une décision du président de la République. Mais là, elle est, je dirais, purement, au sens large du mot, purement politique. Le président de la République ne souhaitait pas, ça fait deux mois qu'on traîne ce débat, ne souhaitait pas ce que certains appelaient, qu'on appelait les alarmistes, le Covid zéro, c'est-à-dire un blocage, un confinement comme on l'a un peu comme on l'avait vécu la première année. Le président de la République s'est accroché totalement à l'idée qu'il ne fallait pas le faire. Et d'ailleurs, il ne l'a pas fait.
Mais oui.
Donc, en ne le faisant pas, non mais qu'il est. La question n'est pas de savoir s'il a tort ou il a raison. Je vous dis, il aura raison si l'épidémie baisse. Il aura tort si l'épidémie continue de monter. Mais en tout cas, il a, lui, en termes politiques, il joue son va-tout sur « je ne suis pas celui qui a reconfiné les Français. Je suis quand même un homme de liberté. » Donc, on a gagné. Michel l'a dit, il a gagné du temps. C'est pour ça qu'elle a parlé des premiers jours bien réussis. On a gagné du temps. Chaque jour gagné, après tout, il y a des gens vaccinés. Donc, mais c'est la suite qui va compter. Donc, à partir de là, si vous voulez, il n'a pas voulu se déjuger. Parfois, comme vous savez, persévérare diabolicum, persévérer dans l'erreur peut être diabolique, mais persévérer dans l'erreur n'est pas forcément ce qui s'est passé.
Le fait, Catherine Ney, que le président de la République ait laissé parler Jean Castex, ça traduit quelque chose, qu'il ne soit pas allé annoncer ce troisième confinement, puisqu'il refuse le terme.
C'est-à-dire que comme le 1er mars, il annonçait la sortie du tunnel pendant 4 semaines, et puis que là, deux régions rentrent à nouveau dans un tunnel, il laisse parler, agir, son Premier ministre, qui a hier commis un acte qui était de courage. Il a été se faire vacciner devant les caméras pour dire aux Français, vous voyez, il a remonté sa chemise, on l'a vu, il a été piqué, il a dit qu'il était douillé et il n'a pas eu mal. Donc, c'est dire aux Français, ça ne fait pas mal.
Même pas mal.
Même pas mal. Ça ne fait pas mal et c'est efficace. Donc, ce sont des mesures de communication qui sont très importantes. Mais moi, je crois que le président...
Réussi ou non, d'ailleurs ?
Comment ?
Réussi, cette opération de communication, pour vous ?
Parce qu'au moins, c'est visible, on comprend. Là, pour une fois, on comprenait ce qu'il disait. Voilà. Non, c'est vrai, on ne comprend pas. Non, mais c'était bien. Il fallait le faire. Moi, je trouvais que c'était courageux et qu'il fallait le faire et que c'était très bien. Voilà. Bon. Mais moi, je pense que le président n'a pas changé. Il a toujours dit qu'il fallait vivre avec le vaccin. Et là, c'est un confinement qui n'en est pas un. On freine, mais on n'enferme pas. Mais il le dit.
De toute façon, pardon, on lui donne raison.
Mais manifestement, le mot confinement a échappé au Premier ministre quand il l'a dit. D'ailleurs, la preuve, c'est que le lendemain, le président de la République l'a rectifié en disant que c'était un terme inapproprié.
Et Véran aussi.
Voilà.
Mais seul aveu de Macron, du président Macron, ça a été quand il a dit, c'est le seul qu'il ait fait, c'est-à-dire que sur le confinement et tout ça, il n'y a pas de changement. Ce qu'il a fait comme aveu, c'est qu'il a dit à un moment donné, le maître des horloges, c'est le virus.
Et là, on a compris
qu'il n'est... C'est une forme de dire, je ne suis pas le maître des horloges, c'est le virus qui est le maître des horloges.
Le problème aussi des confinements tels qu'on les voit en Italie...
Donc, c'est à vous une impuissance.
Tels qu'on les voit en Italie, on voit bien qu'on confine complètement, et d'ailleurs, l'acceptabilité est totale, hein. On dit que les Italiens sont indisciplinés. L'acceptabilité est totale. Vous avez vu les images de Milan qui sont significatives. On s'aperçoit qu'on a beau confiner. Dès qu'on arrête de confiner, ça repart. Donc, on doit trouver effectivement le stop and go. La seule chose contre le stop and go, c'est effectivement la vaccination.
Vous voyez en Allemagne aussi que Mme Merkel, on a fermé dans tous les écoles. Les écoles ne sont toujours pas réouvertes. Et là, sont réouvertes depuis 8 jours, simplement les écoles maternelles. Et alors, on fait classe, les fenêtres ouvertes, et les enfants ont des masques FFP2. Vous vous rendez compte ?
L'exception française.
Malgré cela, le virus, le taux d'incidence qui était très bas, est en train de remonter. Et donc, on vaccine en priorité les landers qui sont aux frontières, par exemple, celui qui est près de la France, rappelez-moi son nom, et celui qui est près de la Tchéquie, parce qu'en Tchéquie, le taux d'incidence est à 800. Et puis, on essaie de vacciner, mais alors j'ai appris, quand on parle toujours de l'organisation allemande, que l'organisation de la santé dans les landers est bien pire qu'en France. Les vaccins sont dans des pièces, ils ne sont pas distribués. Il faut faire des fax pour les obtenir, parce que les services de santé allemands ne sont pas numérisés, donc c'est pire en Allemagne que pour nous.
Il faut rappeler que l'Allemagne est organisée de manière totalement différente de la France. Les régions ont un vrai pouvoir.
Mais en l'occurrence, c'est mal organisé au point de vue santé.
Alors, est-ce que cette troisième voie française est la bonne ? Mais quel impact sur la santé mentale des Français ? Il y a une réunion en ce moment même à Matignon. On en reparle dans un instant.
Europe 1. Sébastien Guyot.
Avec Charles Villeneuve, Gérard Carrérou, Catherine Ney, Michel Cotta pour le débat des grandes voix consacrées au pari perdu ou non d'Emmanuel Macron et les conséquences psychologiques sur cette troisième voie. On va écouter, juste avant de vous entendre les grandes voix, le psychiatre Serge Effès qui était cette semaine sur Europe 1.
Moi, je vois bien à quel point ça fait des semaines, voire des mois, que l'état psychologique des Français, et surtout des jeunes, est calamiteux. Les gens vont très mal. J'ai la sensation là, d'un burn-out généralisé, si vous voulez. Les gens sont au bout de leur force. Ils sont même résignés. Ils n'ont plus d'énergie, ils n'ont plus de force, ils n'ont plus de désir, ils n'ont plus d'envie. Et je me dis que ce nouveau coup de massue, voilà, ça va être vraiment dramatique.
Un burn-out généralisé, Catherine Ney, c'est ce qu'on ressent. Pourtant, c'était un des critères choisis par Emmanuel Macron, la détresse psychologique, pour justement ne pas confiner. Hein.
Oui, mais c'est vrai que les gens en ont marre, mais à qui s'en prendre ? Vous voyez, alors donc, évidemment, c'est aux gouvernants, mais enfin, si le virus circule, c'est aussi en partie parce que il circule à travers les hommes. C'est parce que. Et on est tant qu'on ne sera pas vacciné, je veux dire, le seul lueur d'espoir de sortir, et pas tout de suite, il faudra plusieurs mois de cette pandémie, et c'est vrai pour toute l'Europe, c'est vrai, c'est le vaccin.
Sortir de l'impasse, c'est le vaccin, Gérard Carrérou, sauf que le bout du tunnel est encore loin.
Ben surtout qu'il y a eu une grosse erreur politique là, du chef de l'État pendant la semaine. C'est la décision.
Ah ouais.
Alors, bon, je sais bien qu'on peut expliquer, tout peut s'expliquer d'ailleurs. On peut trouver des circonstances atténuantes en disant qu'il y avait un certain nombre d'États européens. Et puis l'Allemagne. Alors, vous vous rendez compte, si l'Allemagne fait un truc et que la France ne le fait pas, à ça, je me marre à chaque fois que j'entends ça. Alors, pourquoi on n'a pas supprimé toutes nos centrales nucléaires le jour où Mme Merkel a décidé d'arrêter les siennes ? Simplement parce que l'Allemagne a décidé. Bon, il y en a marre de ce suivisme à l'égard de l'Allemagne. Donc là, on a perdu 3 jours. Et 3 jours, c'est pas seulement 3 jours. 3 jours, c'est quelques dizaines de milliers de gens qui auraient pu être vaccinés. Mais c'est psychologiquement... Oui. Le vaccin AstraZeneca était mal parti. Mal annoncé, mal préparé.
Et mal arrivé.
Mal arrivé. Et là, on lui porte un coup, je dirais pas fatal, j'espère que non, mais un coup sévère en arrêtant pendant 3 jours. Tous les médecins qui sont de bonne foi disent, quand je demande, évidemment, il n'y a pas le choix, heureusement qu'il n'y a pas le choix, parce que s'il y avait un choix, si on disait, monsieur, madame, vous voulez choisir entre Moderna ou Pfizer ou AstraZeneca, on arriverait à AstraZeneca avec probablement 5% par rapport aux deux autres. Donc ce vaccin était mal barré, on lui a porté un coup fatal, en disant, alors la précaution c'est bien, l'hystérie de la précaution, c'est trop.
Le mal est fait, Michel Cotta, pour ce vaccin.
Je pense quand même que c'est très compliqué, parce qu'il y avait quand même 7 pays européens qui l'avaient arrêté. C'est dur dans ces cas-là, au moindre pépin, on le paye très très cher. Bon, donc malheureusement, c'était une malheureuse circonstance, je le reconnais. Mais on voit très bien qu'il l'aurait maintenu, il aurait été bastonné parce qu'il le maintenait. Il ne le maintient pas, on
Michel.
Dit « Ah, c'est dommage ».
Michel, c'est un épisode très révélateur.
Oui.
Parce que d'abord, Jean Castex n'était pas pour suspendre. D'ailleurs, il avait la veille même dit qu'il avait toute confiance.
Et Véran aussi.
Et Véran aussi. Mais c'est un épisode très révélateur de la gestion de cette épidémie. La solidarité européenne, jusqu'à présent, nous a apporté le pire. Rien de meilleur. Rien. Par-dessus le marché, toute la négociation, la base de la négociation, c'était de se regrouper pour faire baisser le prix des vaccins. On l'a fait baisser ces prix, mais on n'a pas de dose. Le problème, c'est que, d'accord, le grand espoir, l'horizon, si vous voulez, verdoyant, c'est l'accélération de la vaccination. Mais on n'a pas de dose.
Alors on n'a pas de dose, Charles
Villeneuve. Allez voir les maires, allez voir les pharmaciens. Hier, il y avait une illustration, d'ailleurs, télévisuelle, de ce pharmacien qui avait une dose, qui avait touché une dose.
Oui,
une dose d'AstraZeneca.
Un flacon
donc,
avec 10 doses.
C'est ça. C'est la raison.
Villeneuve, je vous donne cette information.
Ceci étant, on est dans la moyenne des vaccinations.
Oui, Michel Cotta, c'est que l'Union européenne, à travers la voix de sa commissaire, la présidente de la commission, Ursula von der Leyen, menace de bloquer les exportations d'AstraZeneca.
Oui, bah alors là, si on arrête les exportations.
On a l'option d'interdire toutes les exportations prévues.
C'est le président des États-Unis, Joe Biden, qui nous a inspirés. On passe aux menaces maintenant.
Si l'Union n'est pas servi en premier.
Ben on est dans une impasse si on passe aux menaces.
On a très peu de vaccins, mais on menace d'arrêter les livraisons de vaccins dont on a très peu. Donc, franchement,
non,
on est dans la folie absolue.
Non, on menace surtout de les exporter.
Si on n'est pas,
on menace de les exporter aux autres.
Mais sauf qu'on n'est pas en état de faire le chantage. Si on était en force pour faire le chantage, mais là, on n'est pas en position de... on n'est pas en position de force.
Les grandes voix, on s'arrête sur ce débat sur la vaccination, sur le Covid, sur le reconfinement. On va passer à notre deuxième thème dans un instant, celui consacré à l'UNEF, accusé de dérive fasciste par le gouvernement. La polémique a pris de l'ampleur tout au long de la semaine après l'interview de sa présidente sur Europe 1. On y revient dans un instant. À tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1. Sébastien Guyot.
Jusqu'à 11h, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1, deuxième thème du jour, l'UNEF dans la tourmente, la polémique enfle, tout a commencé sur Europe 1, c'était mercredi matin. Sonia Mabrouk demande à la présidente de l'UNEF si le syndicat organise des réunions interdites aux Blancs. Écoutez la réponse de Mélanie Luce.
Aujourd'hui, quand on est une femme, on subit des discriminations. Donc on organise des réunions pour pouvoir, pour permettre aux femmes d'exprimer les discriminations qu'elles peuvent subir. Et on organise aussi des réunions pour permettre aux personnes qui sont effectivement touchées par le racisme de pouvoir exprimer ce qu'elles subissent. Ça ne veut pas dire que c'est des réunions dans lesquelles on prendrait des décisions. Il n'y a aucune décision qui est prise en non-mixité
donc,
dans l'UNEF.
Donc la
dans l'UNEF, on considère que la lutte contre le racisme, elle doit se faire avec, d'un côté, avec à la fois les personnes blanches et les personnes non blanches.
Donc
on doit la faire
ensemble.
Donc il
y a des réunions où les blancs ne sont pas admis, c'est ça?
Mais je, enfin,
oui ou non?
Ça a déjà été expliqué. Est-ce que ça existe? Mais je viens de vous expliquer que ça existe.
Réponse hier de Jean-Michel Blanquer.
C'est profondément scandaleux. Les gens qui se prétendent progressistes et qui se prétendant progressistes distinguent les gens en fonction de la couleur de leur peau nous mènent vers des choses qui ressemblent au fascisme.
Des choses qui ressemblent au fascisme, Gérard Carreau.
Oui, c'est un ancien militant de l'UNEF qui vous parle. Moi, toutes mes années à la Sorbonne, comme des centaines de milliers de jeunes étudiants de l'époque, c'était la guerre d'Algérie, j'étais à l'UNEF. Bon, j'ai jamais vu, bien évidemment, à cette époque, heureusement, l'UNEF était un syndicat de gauche, d'ailleurs, mais républicain. Et effectivement, on se réunissait, toutes les couleurs étaient représentées, les juifs, les arabes, les... tout ce que vous voulez, imaginez à la face de la Terre. Et j'ai jamais imaginé, j'aurais jamais imaginé que le syndicat en question passerait. Alors, je salue d'abord le professionnalisme de Sonia Mabrouk, parce qu'elle a vraiment... c'est comme chez le dentiste. Hein. Elle lui a arraché petit bout. Il a fallu vraiment que ça aille loin pour qu'elle puisse avouer qu'il y avait des réunions. Donc,
oui,
il y a des réunions.
Vous avez entendu sa réponse. C'était de dire qu'il y avait des réunions entre femmes pour parler de violences faites aux femmes.
On va réserver aussi les piscines entre femmes et tout ça. Je veux dire, non, tout ça est très bien. Je trouve que c'est absolument scandaleux. Mais là où je ne suis pas d'accord avec le ministre Blanquer, c'est que là, à la différence de ce que je pense, le ministre Blanquer, lui, il tient les cordons du pouvoir dans les locaux universitaires.
Et de la bourse.
Et il peut très bien... de la bourse, pour les associations. Et il devrait...
Et l'UNEF reçoit chaque année 630 000 euros.
Oui, il devrait couper le robinet financier et interdire toutes les enceintes des lycées, des universités pour des réunions. Pour des réunions de l'UNEF, qui ont parfaitement le droit de se tenir, à condition qu'elle soit pluraliste et ouverte à tout le monde, et pas ouverte à des non-blancs ou à des je ne sais quoi.
En fait, tu parles d'un moment où l'UNEF était un grand syndicat avec des tendances, où presque la majorité des étudiants étaient affiliés à l'UNEF, tandis qu'aujourd'hui, ça ne représente sur les 2 400 000 étudiants que 30 000, et qui sont les porte-parole d'une minorité très agissante, qui à la fois développe les idées décolonial, intersectionnel, l'homme blanc est un... Et du genre, et la loi du genre aussi, c'est toutes ces nouvelles idées qui sont imprégnées et qui sont...
Je voulais dire surtout en ce qui concerne les réunions intersexes, je trouve que c'est surtout extraordinairement contre-productif de leur part. Qu'est-ce qu'ils voudraient démontrer? S'ils veulent démontrer que une race en veut une autre, qu'on est racisé. Et si on veut démontrer que les gens sont égaux, encore faut-il ne pas les dissocier. C'est-à-dire qu'on arrive vraiment à une aberration qui est d'aboutir au contraire ce qu'on veut démontrer. On veut dire que les blancs et les noirs, c'est pareil, on les sépare. Donc on joue la victimisation des races à un moment donné où finalement... Et où en France, elle n'a jamais été très apparente, quand même.
Alors, certains réclament la suppression, la dissolution de l'UNEF comme génération identitaire à l'extrême droite. Charles Villeneuve, un avis ?
Oui, non, mais ce qu'il y a de sidérant dans cette affaire, c'est que l'UNEF a toujours été la pouponnière du Parti Socialiste, et de former les futurs cadres du Parti Socialiste. Et voir ce que c'est devenu, c'est-à-dire racialiste, indigéniste, etc., ouvre le débat, un débat politique. La droite, bien sûr, va s'y engouffrer en demandant la dissolution de l'UNEF, au même titre que la dissolution de Génération Identitaire. Et je pense que le gouvernement ne pourra pas dissoudre un syndicat étudiant et ne pourra pas dissoudre l'UNEF. Ça me paraît impossible.
D'autant qu'ils sont très minoritaires, comme dit Catherine. Oui.
D'autant qu'il y a encore des liens avec une partie du Parti socialiste, indéniable. Donc c'est un débat, si vous voulez, stérile.
Catherine, vous vouliez ajouter un mot sur ce sur
non,
cet
non,
épisode.
Mais ce qui est drôle, c'est voir comment les France Insoumise a réagi et Corbière a dit, mais a dénoncé l'outrance du propos de M. Blanquer qui parle de fascisme. Il dit la diversification politicienne est grossière à l'heure où des millions d'étudiants subissent un terrible pauvreté. Ça, je veux dire, c'est répondre à côté, botté en couche.
Botté en couche.
Parce qu'il ne répond pas au vrai problème, quoi. Non, mais il y a une gêne pour tout le monde, y compris quand vous parlez aux socialistes, qui ont sont tous de Julien Drey, Cambadélis, Jean-Marie Le Guen et d'autres. Au départ, c'était beaucoup les PSU, mais après, je veux dire, tous ceux qui ont tenu un rôle étaient à l'UNEF. Ils disent, eh bien, c'est vrai qu'on s'occupait de l'UNEF. C'était des réservoirs même pour les militants, pour trouver des... Mais là, maintenant, depuis que Jospin a été battu, plus personne s'en est occupé. C'est un syndicat qui a trouvé une sorte d'autonomie avec ses idées.
Benoît Hamon,
mais enfin, d'accord. Mais,
ça va quand même presque plus loin. On se demande, c'est une question quand même, est-ce qu'il y a un entrisme? Je sais bien que dès qu'on parle de ça, on risque d'avoir des gros sauts sur la mer. Est-ce qu'il y a un entrisme musulman à l'intérieur de l'université? Est-ce que ça peut se concevoir? Est-ce qu'il peut y avoir des gens organisés qui essayent de s'introduire? Est-ce que on a après tout dans les écoles? Dans les lycées, on voit bien s'affronter à des gens qui, au nom de la race, est-ce que c'est monté dans les universités?
Mais voilà, la réponse est oui, Michel. Déjà, ils ont eu quand même une représentante voilée.
Et puis, c'est pas le signe qui m'intéresse, c'est l'action.
Voilà, tous les cas, c'est comme les trotskistes de mon époque.
Pour conclure ce débat et avant de passer au prochain entre Biden et Poutine, je signale simplement que depuis cette interview, Mélanie Luce affirme sur son compte Twitter qu'elle est victime de menaces et notamment de menaces de mort, voire plus de décapitation. Pour la fin de ce débat, on poursuit dans un instant avec le bras de fer entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Comme dans une cour de récré, c'est celui qui dit qu'il est.
Les grandes voix d'Europe 1. 10h, 11h. Sébastien Guyot.
Allez, dernière ligne droite avec les grandes voix. Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, Catherine Ney, Michel Cotta. Imaginez les deux hommes les plus puissants du monde, ou presque. À ma gauche, Joe Biden.
So you know Vladimir Putin, you think he's a killer?
Donc vous connaissez Vladimir Poutine, vous pensez que c'est un tueur? Je le pense.
À ma droite, Vladimir Poutine.
C'est celui qui le dit qu'il l'est.
La réponse ironique du président russe à son homologue américain dernière, cette passe d'armes digne d'une cour d'école, de récré, les grandes voix. Est-ce qu'on entre dans une nouvelle guerre froide version 21e siècle ou en tous les cas, est-ce que les relations se tendent dangereusement entre les deux pays?
Mais Biden, regardez les âges. Biden, il a été élu il y a 50 ans. C'est un élu démocrate, d'ailleurs du sud des États-Unis, dans une époque où les démocrates étaient plutôt ségrégationnistes, d'ailleurs. On lui a reproché au moment de la dernière élection. Mais en tout cas, c'était c'est ce que j'appelle un guerrier de la guerre froide. Il a vécu toute sa vie politique dans une époque où le monde était, depuis 45, de 45 à 90, pour simplifier, ce demi-siècle, le monde était bipolaire. Il y avait l'Amérique et il y avait l'URSS. Tous les coups étaient permis. Mais les Américains ont gagné, alors ils en ont perdu certains coups, ils ont perdu au Vietnam pas mal d'endroits, mais ils ont monté des coups dans un certain nombre de pays. La CIA était toute puissante, regardez ce qui s'est passé au Chili et dans pas mal de pays d'Amérique centrale, d'Amérique latine, et puis en Afghanistan, etc. Il y a une nostalgie chez un certain nombre, pas tous les démocrates, mais en tout cas dans un certain nombre de têtes démocrates, il y a une nostalgie de cette période de la guerre froide avec l'URSS, où l'Amérique était quand même gagnante globalement gagnante. Et là, c'est une erreur majeure de Biden de se mettre dans ce terrain-là, parce que la Russie d'aujourd'hui, bon, elle n'a plus grand-chose, même si c'est la Russie éternelle, pas grand-chose à voir avec l'URSS de l'époque Brejnev. Et de toute façon, le principal ennemi, ce n'est pas ça, c'est plutôt la Chine. Alors là, je trouve qu'il se trompe d'adversaire. Et alors, ça fait plaisir, effectivement, à tous les
tiraillés. Enfin, il faisait pas une déclaration, il répondait à une question.
Oui, mais enfin, bon, quand on est au niveau présidentiel, qu'on répond « oui, je le crois », il aurait pu dire, je ne sais pas, il aurait pu trouver un moyen d'éviter la réponse.
Vous savez ce qu'il avait dit à Poutine, les yeux dans les yeux.
Quand il était vice-président.
Quand il était vice-président, George Bush, avant lui, avait dit à Poutine « je regarde vos yeux, je vois votre âme ». Et lui a dit, Joe Biden, c'est énorme de dire ça à quelqu'un, je vous regarde dans les yeux et je vois que vous n'avez pas d'âme. Mais et écoutez, là-dessus...
Moi, je vous fiche mon billet que tout ça relève de la gesticulation. Et diplomatique.
Ouais.
Parce que vous allez voir les prochains rendez-vous, notamment les négociations sur les forces nucléaires intermédiaires entre la Russie et les États-Unis. Ni Biden, ni évidemment les Russes, d'où le flegme d'ailleurs de la réponse
de Vladimir Poutine.
De Vladimir Poutine. Et aussi les New Start, l'autre grande négociation, l'Amérique, qui reste un énorme, le pays le plus puissant du monde, largement, a sorti, si vous voulez, parce qu'il y a deux sorties, il y a une sortie parallèle aussi, avec Anthony Blinken, le très francophone secrétaire d'État, qui est allé à Pékin pour dire aux Chinois
«
Vous êtes en train
aussi.
De commettre un génocide à l'égard des Ouïghours, qui est une population de 11 millions de Chinois musulmans, turcomènes d'ailleurs, turkmènes, et que tout ça relève de la diplomatie du mégaphone, comme disent les Chinois. Et c'est vrai, parce que de la même manière qu'ils ont attaqué aussi... Joe Biden a laissé filtrer le rapport de la CIA qui dénonce les agissements du prince héritier d'Arabie Saoudite, Salman, dans l'assassinat du journaliste Khashoggi. Croyez-vous que les États-Unis vont s'asseoir sur 200 milliards de dollars de contrats signés par l'Arabie Saoudite ?
Donc gesticulation, le fait que l'ambassadeur russe à Washington soit rappelé, là une première depuis
1980. C'est la revanche contre Trump. Trump a été accusé par les démocrates américains. Trump a été accusé d'avoir effectivement été élu grâce aux Russes. Et effectivement, Biden se venge. Il faut dire que le fils Biden a été lui-même mis en cause.
Non, mais on sent quand même que l'Amérique compte redevenir dans le monde occidental. Face à la Chine et à la Russie, le chef de file, qu'il y a encore cette tentation américaine de vouloir organiser le monde occidental, d'être en quelque sorte le gendarme du monde occidental.
Oui.
Et c'est vrai que c'est la tentation des démocrates.
J'espère que l'Union européenne ne va pas se laisser embarquer par cette nouvelle diplomatie, notamment américaine, sur ce plan-là. Il est bien évident, depuis 2019, l'Europe a, si vous voulez, fixé une politique, une diplomatie internationale qui est celle de considérer notamment la Chine comme un adversaire systémique, mais un partenaire économique.
Mais d'ailleurs, Charles, vous avez entendu l'Allemagne qui a réagi, qui a salué le langage très clair des États-Unis vis-à-vis de la Russie. Catherine Nen, en revanche, Emmanuel Macron n'a rien dit.
Mais l'Allemagne, d'ailleurs, c'est curieux que l'ambassadeur ait réagi comme ça, alors que l'Allemagne est complètement dépendante de la Russie pour le gaz russe et créer ce fameux gazoduc. Et certains Européens disaient qu'en raison de l'affaire Navalny, elle devait interrompre ses accords, ce qu'elle s'est bien gardée de faire et qu'elle ne fera pas. Et l'Italie aussi a tout à fait veut garder de très bonnes relations
bien
avec
sûr,
la Russie.
Mais l'Allemagne a une double attitude. Elle a une diplomatie économique, ça passe par le gazoduc. Et effectivement,
50% de son gaz va venir de toute façon de Russie.
Et à côté de cette diplomatie économique, elle a une diplomatie en apparence tiers-mondiste, un peu comme la nôtre, les droits de l'homme
sont coupés en deux.
C'est du blabla.
Tous les pays sont coupés en deux, parce que l'Amérique a besoin du commerce chinois. Si la moitié des objets qui arrivent en Amérique sont chinois.
L'Allemagne a besoin du parapluie nucléaire et de défense américaine.
Non, mais il faut bien voir...
Donc les deux, tout le temps, les pays sont coupés en deux entre l'envie d'attaquer la Russie et... ou la Chine, et puis non, il a profité.
Ce qui est sûr, c'est qu'on a, on n'est plus dans, dans la politique de De Gaulle de l'Atlantique à l'Oural, et aujourd'hui, on voit bien que les Russes, ils se sentent à part, ils sont différents des Européens, parce que rejetés par eux à cause des sanctions, mais ce n'est pas non plus une puissance asiatique. Et donc, s'il y a quelque chose qui doit réunir les Européens et la Russie, c'est la peur des Chinois. Parce que la menace chinoise, elle est et pour les Européens et pour la Russie.
On s'arrêtera là. On est sorti de la cour d'école et de la cour de récré grâce à vous, les grandes voix, les quatre fantastiques qui ont mis un peu de hauteur dans ce débat. Merci à vous. Je vous rappelle que l'émission est à réécouter en podcast sur europe1.fr. Merci à Jean-Luc Arblade à la réalisation, à Capucine Patouillet à la préparation de cette émission. Tout de suite, c'est bien entendu la table des bons vivants avec vous, mon cher Laurent Mariotte. Quel est le programme ?
Bonjour Sébastien et bonjour les grandes voix. Alors on va changer de sujet, venez à la maison, il y a le printemps qui chante, on va le fêter et le cuisiner. Manger local est une tendance de plus en plus suivie par les Français. Eh bien on va débattre sur les limites d'un monde locavore et on va partager un plat du jour avec la belle cuisinière Perla Servan-Schreiber. Voilà, à tout de suite.
À tout de suite.
Europe 1.